Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et on évoquait aussi alors les chiffres d'inflation aux États-Unis qui ont été publiés aujourd'hui. En fait, c'est l'inflation notamment des prix des maisons aux États-Unis sur un plus haut depuis 2022. On évoquait aussi le coût de l'emploi qui repart à la hausse au premier trimestre aux États-Unis. Ce sont pas de bonnes nouvelles pour la réserve fédérale américaine qui commence à peine à se réunir. On en parlait avec John Plassard, c'était à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. N'hésitez pas, ce replay, à le consulter. Vous y retrouvez sur l'application tous les replays de BFM Bourse. Et maintenant, alors justement, que va faire la Fed, qui se réunit, qui annoncera demain sa décision de politique monétaire, et puis, quelle perspective pour les marchés? Jean-Jacques Frimann est avec nous. Bonsoir Jean-Jacques.
Bonsoir Guillaume.
Bienvenue pour Vega IM. François Monnier aussi nous accompagne en fil rouge. Rebonsoir François.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction d'Investir. On termine donc avec ces chiffres d'inflation aux États-Unis, sous pression, pression obligataire. Le 10 ans américain remonte à 4,67 et les actions reculent. Du coup, on est à moins 0,6 sur le CAC. Séance pluvieuse, Jean-Jacques, à l'image du mois d'avril au global, mais aussi le mois d'avril sur les marchés, qui aura été largement négatif pour le CAC et pour Wall Street. Quelle leçon est-ce qu'on en tire pour la suite et pour la suite du printemps, qu'on espère un peu meilleur quand même en bourse ou pas?
Il y a une fragilité maintenant qui est apparue quand même. Je veux dire qu'il y avait une tendance qui était assez claire, parce que les deux moteurs finalement à la fois de la croissance semblaient solides, et même les chiffres aujourd'hui de l'inflation sur les maisons, a fortiori, s'indique que malgré la hausse des taux, il y a une demande sur l'immobilier. Donc tout ça corrobore finalement des chiffres de croissance assez solides et montre que le chiffre un peu moyen qui est sorti sur le premier trimestre aux États-Unis sera sans doute révisé en hausse. Il y avait des composantes un peu techniques qui montrent que ce chiffre en réalité sera sans doute supérieur à 2%. Mais avant, il y avait ce moteur allumé et puis il y avait le moteur de la future baisse des taux de la Fed qui était un élément important. C'est-à-dire que le niveau des taux, on y reviendra long notamment, c'est des éléments intéressants, mais la dynamique de taux, souvent avant la baisse des taux, le marché aime bien cette situation, il aime bien attendre la bonne nouvelle et c'est un moteur supplémentaire. Et donc il y a un des deux moteurs qui a calé et aujourd'hui on voit que le marché, il est comme un peu sur le fléau d'une balance. Il a peut-être 500-600 points à perdre à la hausse ou à la baisse et il attend de voir dans quel sens vaciller. Et on voit que tout le monde va se mettre dans ce sens-là dès qu'il semblera avoir franchi un des deux points techniques importants.
Et en même temps, on peut se rassurer en se disant on a perdu sur les marchés 1,5-2% en avril. Enfin, c'est pas non plus gigantesque en partant de niveau record, alors que le marché quand même a eu des douches froides en matière d'anticipation de baisse de taux. Oui. Du côté des États-Unis, les choses se sont carrément ajusté, voilà. Mais le marché n'a pas reculé plus que ça. On n'est pas sur du moins 5, moins 10, pas du tout. Ouais, moins 1,5, moins 2, ça reste relativement modéré malgré
peut-être
tout.
Peut-être parce que sur le marché européen, finalement, il y a toujours l'anticipation de sans doute une baisse des taux en juin et peut-être suivi d'une baisse des taux en juillet. Enfin, l'idée qu'il y aurait au moins deux baisses. Et puis, peut-être que la hausse des taux, ça a favorisé le cycle un peu plus value et donc que ça favorisait l'Europe par rapport aux États-Unis. Donc, ces deux éléments ont fait que l'Europe, qui en plus a une trajectoire de croissance qui va s'améliorer. On voit bien que des plans Repower vont dans le bon sens, qu'aujourd'hui on a les chiffres de croissance qui étaient plus forts qu'attendus.
Au premier trimestre, plus 0,3% d'un trimestre sur l'autre.
Voilà. Et surtout dans tous les quatre principaux pays, de manière un peu homogène. Donc ça aussi c'est intéressant. Donc ces deux éléments, plutôt des surprises économiques plus favorables en Europe depuis quelques semaines. Et là, le potentiel finalement et le décalage ou le découplage entre la baisse des taux aux États-Unis et en Europe, ça semble quand même engagé. Après, c'est peut-être les premières baisses qui sont bien engagées. La question de la tendance, il faudra que la Fed emboîte le pas sans doute pour aller au-delà de deux baisses des taux. Elle peut faire cavalier seul peut-être en juin, juillet. Après, il faudra quand même que la Fed emboîte le pas.
Vous sentez que le chemin s'éclaircit plus pour les marchés européens que pour Wall Street, là, pour la suite, François ?
Non, je pense qu'on a besoin de Wall Street. Quand vous commentez l'inflation, sans vouloir être caricatural, on a le sentiment quand même que l'inflation en zone euro, les investisseurs s'en moquent un petit peu. Oui. Et sont vraiment focalisés sur les États-Unis et la croissance américaine.
On le voit sur la séance du jour. Hein. Donc, on a de bonnes nouvelles sur l'inflation en Europe et pourtant les marchés reculent parce qu'on a de mauvaises nouvelles pour le coup aux États-Unis.
Donc c'est bien qu'il y ait des bonnes nouvelles au niveau de l'inflation et donc un recul de l'inflation en zone euro. Oui. C'est bien et ça valide le scénario que la BCE va baisser ses taux en juin et que ce sera la première banque allait baisser. Mais tout le monde sait que la BCE ne peut pas faire cavalier seul et que si derrière la Fed n'enclenche pas des baisses de taux, une baisse de taux ou deux baisses de taux, ça ne change pas vraiment la donne. En revanche, ce qui est intéressant de voir, c'est quand même que la qualité des résultats des entreprises est toujours au rendez-vous au premier trimestre. Il y a quelques réactions épidermiques sur des titres, mais des titres qui ont aussi fortement monté. Globalement, l'activité, elle est toujours là. Les perspectives sont quand même globalement rassurantes et on a des marchés qui tiennent relativement bien. Donc, on est plus sur une pause dans le domaine de la hausse, dans un marché haussier, qu'un changement d'orientation. Après, il faut qu'on ait plus d'informations. Donc là, on est plutôt dans une pause dans la hausse. On va être très attentiste de savoir si baisse ou pas des taux de la Fed, parce qu'au départ, il y a même des banques qui, l'année dernière, annonçaient 10, 15, 20 baisses de taux de la Fed, vous l'avez même commenté, et là, on se dit, finalement, est-ce qu'il y en aura une ?
On va la citer, c'était UBS, notamment, qui voyait le plus de baisses de taux de la part de la Fed. Bon, bonjour UBS. Non, mais après, ça,
mais tout le monde globalement, là, on ne sait même pas s'il y en aura une. Donc, est-ce qu'il y en aura une en septembre ? C'est compliqué, parce que c'est deux mois avant la campagne.
Oui, parce qu'en même temps, tout le monde se moquait de ceux qui pensaient qu'il n'y aurait quasiment pas de baisse de taux. Finalement, ce seront peut-être eux qui auront raison.
Ouais. Oui, et on voit que c'est extrêmement difficile finalement d'être économiste. Il faut mieux être gérant. Les économistes se sont trompés sur la croissance américaine en disant c'est sûr, les États-Unis vont rentrer en récession et c'était le scénario tout au long de l'année 2023. Donc au départ, c'était début 2023, après mi-2023, après fin 2023. Et puis cette année, c'était il y aura X baisse de taux. Et là, à chaque fois, on réduit le nombre et maintenant, on ne sait même pas s'il y en aura une. Donc, on voit que le métier d'économiste, c'est quand même très compliqué. C'est, en tout cas, c'est aussi compliqué que d'être gérant.
Alors, le métier de journaliste, il est très confortable dans tout ça.
Absolument.
Il faut le dire. On est là, on pose des questions. Voilà, on est très
bien. Vous avez
le
plus beau métier du monde.
C'est pas faux. Et on s'enrichit des réponses des autres pour poser de nouvelles questions qui vont encore. Enfin, c'est formidable quand même.
Donc, voilà. C'est...
Oui, oui. Mais alors, vous êtes journaliste aussi quand même, François, directeur de la rédaction du magazine Investir. Vous allez malgré tout devoir vous mouiller. Est-ce qu'à vos yeux, il devient désormais probable que la Fed ne baisse pas ses taux cette année?
Non, je pense que la Fed baissera ses taux en décembre. Et là, le scénario quand même le plus probable, c'est que Trump va prendre le pouvoir aux États-Unis. Mais bon, il y a encore un peu de suspense parce qu'on n'est pas à l'abri de quelques sorties. Mais on a vu que ces sorties verbales, ne pénalisaient pas, en tout cas, son fan club. Et Trump voudra taper très fort sur les baisses de taux. Donc, quoi qu'il arrive, il a même prévu déjà de changer éventuellement Jerome Powell. Il ne le trouve pas suffisamment, entre guillemets, docile, alors que c'est lui qui l'avait nommé lorsqu'il avait pris le pouvoir, lorsqu'il avait été élu précédemment. Donc, je pense qu'on aura quand même une baisse des taux en décembre. Mais ce n'est pas du tout le scénario. Je rappelle qu'en décembre 2023, le consensus attendait une baisse des taux dès mars 2024. Donc on perd un petit peu de temps et ça montre quand même que l'inflation, elle est quand même là. Elle est durablement peut-être là. On rentre dans un nouveau système où finalement les gains de productivité ne sont pas énormes. Il y a toujours besoin d'énormément de main-d'œuvre. Donc on a un marché de l'emploi qui est relativement tendu. On a quand même des collaborateurs qui ne veulent pas non plus s'exténuer au travail. Donc il faut plus de collaborateurs. Donc l'approche de dire est-ce que l'inflation est durable, elle est probablement possible. Et en tout cas, se dire qu'on va redescendre sous les 2%, ça paraît quand même compliqué.
Oui. Et donc on imagine. Enfin, dans ce scénario où l'inflation ne repasserait pas sous les 2%, on imagine les banques centrales maintenir leur taux. Alors la Fed surtout, parce que la BCE, voilà, l'inflation ralentit davantage peut-être ici, mais la Fed maintenir ses taux effectivement jusqu'en décembre. Enfin, vous chez Vega IM, comment est-ce que vous ajustez le calendrier pour la suite? On vous pose la question notamment sur la Fed parce que les membres de la Fed sont réunis et communiqueront demain soir, notamment Jérôme Powell. Il faudra suivre la conférence de presse demain soir.
Il me semble que le balancier est parti beaucoup trop loin. Je sais plus, il y a 25-30% des gens qui anticipent une hausse de la... Ça me semble impossible. Un point quand même important, c'est que pendant toute l'année 2022 et 2023, les investisseurs anticipaient davantage de mouvements que la Fed. Là, c'est la Fed elle-même qui, en décembre, a indiqué le fait qu'il y aurait, avec les dots, trois baisses de taux. Donc, c'est la première fois, finalement, que la Fed est en avance parce qu'elle voit bien le risque potentiel de maintenir des taux trop élevés. Et donc, eux visaient absolument une fenêtre qui se refermait pour pas grand-chose. Le chiffre de 0,4 d'inflation du mois dernier, il sortait 0,35 et des poussières. Il serait sorti 0,3. Peut-être que la Fed saisissait l'opportunité. Donc, nous, il nous semble toujours qu'il y a matière à avoir peut-être deux baisses de taux. C'est vrai que ce qui est embêtant, c'est qu'ensuite, il y a le calendrier politique qui peut venir biaiser cet élément-là. Mais d'un point de vue économique et d'un point de vue risque et d'un point de vue taux d'intérêt réel, il y a tous les éléments, en effet, pour baisser les taux plus rapidement. L'idée, c'était qu'il y avait un effet de base favorable, qu'elle allait réussir son mandat et donc toucher 2%, et qu'ensuite, finalement, après, elle allait dire, bon, bah, on libéralise, peut-être que, voilà, maintenant, on a un objectif entre 2 et 3. Mais avant d'indiquer cet objectif un peu plus élevé, l'idée, sans doute, c'était de montrer qu'elle ne le dit pas par non-atteinte de ses objectifs, et par renoncement, mais finalement, une fois que la bataille était gagnée, là, de pouvoir indiquer que, bah, elle donnait un peu plus de marge de manœuvre à sa politique de taux.
Dans 20 minutes, la clôture, on va la vivre en direct. On entre dans la dernière ligne droite de cette séance en Europe, dernière ligne droite du mois d'avril, d'ailleurs. Et cette clôture, alors qu'on accélère, est pressentie dans le rouge. Très nettement, le CAC 40 même accélère à la baisse. On abandonne en ce moment sur le CAC 1%, voilà, près d'1%, et on repasse sous les 8000 points, 7973 en ce moment sur l'indice CAC 40, parce qu'à Wall Street aussi, on accélère un peu la baisse, moins 0,7 le S&P, moins 0,8 sur le Nasdaq. Et du coup, les valeurs qui étaient sanctionnées depuis ce matin le sont encore plus, là, à l'approche de la clôture. Stellantis, accrochez-vous bien. Tenez bien ceinture, le titre Stellantis perd 10% désormais, moins 10%, on accélère très fortement à la baisse sur Stellantis, donc avec des effets de déstockage qui pèsent sur le groupe, des effets de change aussi, on va en reparler dans un instant, et dans son sillage Renault qui recule de 6,4% à la hausse quand même. Alors quelques rescapés, on peut commencer à les qualifier comme ça, notamment des valeurs défensives, Sanofi est en tête du CAC à plus 1%, Danone plus 0,1%, L'Oréal plus 0,6%, puis Veolia gagne 0,2%. Voilà un certain nombre de défensives qui parviennent à tirer leur épingle du jour. On appellera Étienne Braque dans un instant. Depuis la tour Euronext, Stellantis moins 10%, François Monnier, là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est vrai que c'était l'une des plus fortes hausses depuis le début de l'année. Publication décevante, enfin, pas non plus cataclysmique, et on est sur du moins 10 ce soir.
Bah, il y a plusieurs phénomènes. D'abord, il y a un phénomène de prise de bénéfices. Vous avez un recul d'activité, on vous annonce des stocks, et on vous annonce finalement que la visibilité n'est pas si bonne que ça. Donc, vous êtes sur un dossier qui a une visibilité qui se réduit, dans un contexte où la visibilité se réduit parce qu'on ne sait pas où on va sur la baisse de taux. Donc, rajouter de l'incertitude à l'incertitude, eh bien, les investisseurs qui se disent tout simplement, ben, je prends mes gains, et c'est tout à fait légitime. Donc, la réaction, on ne peut pas dire qu'elle est exagérée. Elle est, je veux dire, dans le contexte actuel, vu la publication, c'est prévisible. Après, le dossier reste de qualité, le bilan est extrêmement solide, ça n'impacte pas la politique de distribution des dividendes, ni celle de rachat d'actions. Donc,
oui, mais enfin, on ne parlait pas d'une société dont la valorisation dans le PE était de 25, 30, 35, 40, 50. On parlait d'une société qui était déjà très décotée, même si elle a rebondi depuis le début de l'année. Stellantis, c'était encore pas cher, et pourtant, on est sur du moins 10 aujourd'hui.
Oui, mais parce que sur Stellantis et sur le secteur automobile, on ne regarde pas finalement la valorisation. La question, c'est aujourd'hui, vous avez un modèle qui repose sur des voitures thermiques et des voitures électriques. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'il n'y aura plus de voitures thermiques, et on ne sait pas aujourd'hui si il y a des acheteurs sur les voitures électriques. Donc on est sur un sujet sur plus quelle est l'approche. Et puis vous avez Elon Musk qui vous annonce que demain il y aura des voitures autonomes. Donc on voit que les défis sont colossaux. Chez Stellantis, il y a une flopée de marques, des tonnes de modèles. Donc
il y en aura beaucoup à venir dans les prochains mois. En plus,
il y en aura encore d'autres à venir dans les prochains mois. Donc l'enjeu, est-ce que demain il y aura une voiture qui sera désirée et abordable à un prix justifié par les consommateurs. Et là, on n'a pas la réponse. Donc, comme on n'a pas la réponse, eh bien, les investisseurs qui ont gagné beaucoup d'argent, parce que l'historique de performance de Stellantis, il est remarquable, eh bien, ils vendent, ils prennent bien sûr leurs bénéfices en se disant, bon, on va se positionner sur des sociétés qui proposent une meilleure valorisation, et une meilleure visibilité, pardon. Et la valorisation, c'est vrai qu'elle est faible. On est sur des ratios cours sur bénéfices de 3 fois, mais.
3 fois.
C'est pas l'enjeu.
3 fois.
C'est beaucoup moins cher que les banques, c'est moins cher.
C'est l'année dernière, oui.
Oui, parce qu'il y a eu des bénéfices records, la société marche plutôt bien, mais on ne sait pas si demain, il y aura encore des voitures Stellantis.
Ah bon?
Si durablement, vous avez une société qui se paye 3 fois quand le marché se paye 15 fois et que vous avez des valeurs de qualité qui se payent 40 fois, si vous êtes toujours à 3 fois, c'est qu'il y a un problème sur les 3
effectivement.
Fois.
Effectivement.
Donc ça veut dire que demain, vous n'êtes pas sûr que dans 10 ans, il y aura autant de véhicules vendus.
En gros, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a. Enfin, toute comparaison n'est pas raison, on est d'accord. C'est vraiment pour schématiser, c'est une forme de caricature, on sera bien d'accord. Mais vous dites qu'il y a une forme de menace nucléaire quand même sur un certain nombre d'acteurs automobiles aujourd'hui. Alors, il y a les véhicules électriques, les véhicules chinois et les véhicules autonomes qui arrivent aussi avec
Tesla. Regardez le changement d'ambiance et de climat et de température sur Tesla. Vous étiez sur une croissance durable à 2 chiffres, encore au 3e trimestre. Au 4e trimestre de l'année dernière, il n'y avait plus de croissance du chiffre d'affaires. On défendait le volume en baissant les prix. Et là, maintenant, on est sur une décroissance. Donc, on voit qu'on est passé d'une demande extrêmement forte à maintenant à gérer la décroissance et on est passé sur un produit extrêmement désirable où le prix n'avait pas vraiment d'importance parce que le consommateur il voulait acheter une Tesla et ça faisait bien d'acheter une Tesla et on est sur un marché où pour avoir continuer à vendre la Tesla on est obligé de baisser son prix de quelques centaines voire milliers d'euros donc on voit que le climat change radicalement et donc ça incite bien sûr à la prudence.
Il y avait une histoire quand même autour de Stellantis, là, du rebond, du grand retour.
Tesla aussi, une très belle histoire. Et on est à moins 40 depuis le début de l'année.
Moins 9,5, c'est un point d'entrée ou pas Stellantis, moins 9,5 d'après vous François?
Nous on reste à l'achat sur ce titre-là, mais la réaction, on ne peut pas dire que la bourse n'a pas compris la publication et pas dans le décor.
C'est une question qu'on vous pose à vous aussi sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner, notre fil LinkedIn, notre fil XBFM Bourse aussi, en pleine guerre des prix, quel constructeur européen parviendra à préserver le tarif de ses véhicules? Est-ce que ce sera Mercedes qui a publié aussi ses résultats? Ils sont sanctionnés, Mercedes dit pourtant vouloir maintenir le prix de ses véhicules, ne pas entrer dans une guerre des prix. Est-ce que ce sera donc Mercedes qui les préservera? Est-ce que ce sera Stellantis? Plutôt Volkswagen ou pourquoi pas Renault pour parvenir à préserver le prix de ces véhicules? Vous êtes nombreux d'ailleurs à avoir voté pour vous, Jean-Jacques. Est-ce qu'il y a l'un de ces constructeurs qui, oui, à vos yeux, pourrait parvenir à préserver ses marges et les prix de ses véhicules?
À horizon un an, on voit que la dynamique la plus intéressante pour nous, c'était Renault. Donc on avait été porteur de Stellantis et notamment dans nos fonds, dans nos gestions collectives, on l'avait arbitré pour Renault parce que il y a une gamme qui arrive qui paraît intéressante. Mais peut-être pour rejoindre ce que vous disiez, c'est le coût de fabrication d'un véhicule, par exemple Tesla, c'est 10 à 15% moins cher à équivalent à un véhicule européen. Et en Chine, c'est 10, 15% moins cher que Tesla. Donc ça fait une vraie différence de compétition. On voit bien que l'Europe essaye de contrer cet élément-là. Mais quand on voit une intégration verticale plus importante finalement pour les constructeurs chinois avec un accès aux batteries, aux matières premières plus important, c'est ce risque-là qui pèse sur les constructeurs européens, en effet. Ouais.
Donc, je pense qu'il n'y en aura aucun qui va pouvoir résister à une baisse des prix.
Aucun constructeur européen ne parviendra à préserver ce prix.
Sauf si on met des taxes sur les véhicules asiatiques, et notamment chinois. Donc la question, elle est plutôt politique. C'est est-ce que les politiques, dans le bras de fer avec la Chine, vont se mettre d'accord? En France, on voit qu'il peut peut-être y avoir une volonté de taxer ces véhicules qui rentrent comme du temps de Calvet chez Peugeot, pour ceux qui ont de la mémoire boursière et économique. Mais on voit que les Allemands sont plutôt réticents parce qu'ils vendent des machines aux Chinois. Donc, mais s'il n'y a pas de taxes à l'entrée des véhicules asiatiques et chinois, eh bien là, il y aura une guerre des prix et elle va faire du dégât.
Oui, et les Allemands sont vraiment entre deux eaux, c'est ce que vous disiez. Ils sont dans une position extrêmement inconfortable parce qu'effectivement, si on taxe les véhicules chinois à l'entrée de l'Union européenne, alors ce sera bien pour défendre les constructeurs allemands, très bien, face aux constructeurs chinois, mais en même temps, les Allemands, eux, ils vendent quand même des machines-outils aux Chinois. Donc si on taxe les produits chinois, ben, les Allemands leur vendront peut-être moins de machines-outils. Ils sont entre deux eaux, là.
Et dans l'équation, on peut mettre les voitures japonaises qui, avec un dollar yen qui a flirté avec les 160, retrouve une compétitivité extraordinaire aussi. Donc,
Il y a ce match existentiel là, en ce moment dans l'automobile et puis il y en a un autre de match dont on va tout de suite vous faire part, c'est dans la nutrition. À qui l'avenir appartient-il? C'est donc notre match. Fight. C'est la bataille du jour. Elle se joue aux États-Unis, le match de l'anti-obésité. Eli Lilly a publié ses résultats tout à l'heure. Le groupe relève ses prévisions. Le titre à Wall Street gagne 6%. À ma droite, Eli Lilly qui cartonne. À ma gauche, McDonald's, moins 1%. McDonald's a annoncé tout à l'heure ses résultats. On a aussi Coca-Cola, alors qui relève quand même ses prévisions. Autant de publications et ce match, donc, l'anti-obésité d'un côté et la Libye, Coca et McDo de l'autre. À qui l'avenir appartient-il d'après vous? C'est notre fight, notre match de ce club. François, Jean-Jacques, à qui l'avenir appartient-il? L'anti-obésité ou plutôt les groupes comme McDo, Coca-Cola, Enco? Jean-Jacques.
C'est évident qu'il y a un boulevard pour Lali, mais ce qu'il faut voir, c'est que les chaînes vont évidemment réagir. Il y a déjà des grandes chaînes qui sont sur un aspect sain de la santé. Donc, des groupes comme ça, c'est même étonnant finalement que ça ait pris tellement de temps. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la mort finalement des fast-foods. Il y a de la place pour absolument tout le monde. Mais la vraie tendance de long terme, elle est évidemment sur ce genre de société.
Oui, ouais, et en même temps, on voit ces groupes-là se transformer quand même face justement à l'arrivée des médicaments anti-obésité. Coca-Cola, notamment de plus en plus de bio chez Coca-Cola qui relève ses prévisions. Coca-Cola, effectivement, et le titre à Wall Street progresse. Alors, pas autant qu'Eli Lilly, mais il est en hausse. Intéressant, c'est le hasard du calendrier et ses publications.
Après, je dirais que juste pour les médicaments au sens large, s'il y a bien un domaine où l'IA sera vraiment porteuse d'avancées extrêmement rapides, c'est dans le domaine pharmaceutique. Donc là, il y aura vraiment des avancées et une productivité, une amélioration de la productivité qui sera colossale. Toutes les personnes qui recherchent, pour paraphraser la phrase de De Gaulle, il y avait avant beaucoup de gens qui cherchaient, mais peu qui trouvaient. Maintenant, je pense qu'avec l'IA, on va trouver des découvreurs et pas seulement des chercheurs. Ouais.
À qui l'avenir appartient-il, François ?
Oui, je pense que Eli Lilly n'a pas dit son dernier mot, et notamment et Novo Nordisk qui va publier dans quelques heures non plus. Hein, ce sont les deux concurrents dans le secteur anti-obésité. Novo Nordisk a même peut-être un temps d'avance. Après, c'est pas parce qu'on prend des médicaments anti-obésité qu'on va se mettre, pour reprendre votre titre, à consommer de la malbouffe. Hein. Ce qu'on voit sur McDonald's, c'est qu'en fait, la corrélation du titre, elle n'est pas tant au fait qu'il y a arrivé avec des médicaments anti-obésité. McDonald's répond à une demande qui est de dire il y a un problème de pouvoir d'achat lié à l'inflation, et finalement, on peut manger un repas chaud à moindre coût. Et c'est ça qui fait le succès du modèle économique de McDonald's et les performances de sa croissance bénéficiaire. Donc c'est plus, McDonald's est plus vu par les investisseurs comme une valeur, j'ai envie de dire, pouvoir d'achat. Et c'est ça qui a porté boursièrement le titre. Et Lilly, comme Novo Nordisk, on est sur de la R&D, on est sur des annonces, on est sur un marché de personnes obèses qui est stratosphérique et donc et qui est solvable, parce que ça se passe surtout dans les pays occidentaux et surtout aux États-Unis, où on sait que le prix des médicaments aux États-Unis sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus élevés que ce qu'on peut observer en Europe et en zone euro. Donc voilà, c'est ça un peu le sujet. Sur Coca-Cola, oui, ils essaient de se mettre, j'ai envie de dire, au vert. Bon, il y a quand même peut-être un petit peu de travail.
Intéressant. Et alors, les acteurs des prothèses de genoux aussi sont disruptés par l'arrivée des pilules coupe-faim, des médicaments anti-obésité, parce que quand on est un peu en surpoids, on a besoin de prothèses de genoux, et il semble que les acteurs des prothèses de genoux s'inquiètent de l'arrivée de ces médicaments anti-obésité. En tout cas, Eli Lilly relève ses prévisions, et vous le disiez, Novo Nordisk, notre champion européen du secteur et du domaine, Novo Nordisk annoncera aussi ses résultats, ce sera jeudi 17h26, il n'est pas obèse du tout, il a la ligne, c'est Étienne Bras qui nous appelle depuis la Tour Euronext à 9 minutes de la clôture. Étienne, le CAC aussi en petite cure d'amaigrissement. Là, on est encore en baisse ce soir sur l'indice parisien.
Bah oui, après 5 mois dans le vert, le mois d'avril sera un mois de pause, hein, avec notamment une baisse de 2,7% désormais en données mensuelles. Et pour cause, vous avez une baisse qui s'accélère à la Bourse de Paris, moins 1%, c'est désormais le tarif, avec un indice qui redescend sous les 8000 points à 7981 points. Du côté de Wall Street, vous avez trois indices qui perdent entre 0,6 et 0,7%. Beaucoup de prudence avec Amazon ce soir, la Fed demain, jeudi Apple, vendredi l'emploi américain. Bref, la semaine est très chargée. À noter que le secteur automobile est en baisse de façon marquée en Europe. Il n'y a pas que Stellantis. Vous avez Mercedes également qui perd 4%. Vous avez également Volkswagen qui est sous pression à Francfort. À noter par contre, et ça c'est peut-être une bonne nouvelle, qu'en données mensuelles, vous avez un actif qui est en baisse marquée également, en dehors des indices actions, c'est le pétrole, qui perd un peu plus de 1,5% en ce mois d'avril. Par contre, là aussi, il avait beaucoup progressé ces derniers mois. $86 à l'instant pour le baril de pétrole, et des prises de bénéfices également marquées sur l'once d'or qui redescend à $2,300, moins 2% ce soir.
Dans 7 minutes, la clôture, vous nous la ferez vivre sur BFM Business. Et vous tous qui nous suivez, vous vous demandez aussi quel potentiel technique attend les indices. On en parlait avec Alexandre Tixier, l'analyste du portefeuille trading BFM Bourse. C'était à 15h55. Si vous avez raté le direct, le replay est disponible sur notre application BFM Business. Le potentiel technique des indices, vous allez dans Culture Bourse une fois que vous êtes dans la page replay.
Jusqu'au 31 mai avec Audinao, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.